bonsoir et bienvenue dans cette émission. Enseignement primaire, secondaire et technique au terme d'une mission de 5 mois dans les 26 provinces administratives de la République démocratique du Congo. La commission mise en place par les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour nettoyer les fichiers suivis et paix des enseignants a rendu public le rapport synthèse de ce travail. Il ressort de ce travail 42 établissements scolaires fictifs, 879 établissements scolaires non viables, 4473 établissements qui fonctionnent avec des faux arrêtés, 2483 agents fictifs et 2483 agents sans acte régulier de recrutement. La cérémonie de publication du rapport s'est déroulée mardi 24 août 2021 à Kinshasa au salon Virunga de l'hôtel Vénus en présence du ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba. Quelle lecture faire des conclusions de ces rapports et que faire pour assainir efficacement le secteur de l'éducation en RDC? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre dans cette émission. Et nous recevons Mme Cécile Chiombo, elle est secrétaire générale du syndicat des enseignants du Congo, SIECO en sigle. Bonsoir Mme Cécile Chiombo. Bonsoir Mme Cécile Chiombo. Et va nous rejoindre Monsieur Serge Bondedi, secrétaire général de l'ONG Association des Jeunes pour l'Éducation, en sigle IMAE. Il est aussi coordonnateur de la campagne École Les Âmes Mbongoté. Bonsoir Monsieur Serge Bondedi. Monsieur Serge Bondedi. Lui non plus n'est pas là. Isidore Kwanja Ngembo, analyste de politique publique spécialisé en management des organisations publiques, gestion axée sur les résultats et réforme des administrations publiques. Bonsoir, monsieur Isidore Kwanja Ngembo.
Bonjour.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Nous le disions au sommaire, nettoyage des fichiers de la paye du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique est posté en sigle. Le rapport de la commission présente 42 établissements scolaires fictifs, 879 non viables, 4473 écoles qui fonctionnent avec des faux arrêtés, 2483 agents fictifs et 2483 agents sans acte régulier de recrutement. Après 5 mois passés dans les 26 provinces administratives de la RDC, la commission mise en place par les ministres des tutelles a rendu public les rapports synthèse de ce travail de longue haleine. C'était mardi au salon Virunga de l'hôtel Vénus en présence du professeur Tony Mwaba et de tous les missionnaires. Les comptes rendus d'Alain Irong Mouchinge.
Sur les 57 202 écoles prévues au départ, les missionnaires se sont focalisés sur 57 174 établissements scolaires pour des raisons purement sécuritaires dans certaines contrées du pays. Les syndicalistes qui faisaient également partie de la commission ont relevé le non-respect des textes légaux qui régissent l'administration publique, surtout en ce qui concerne la procédure disciplinaire pour sanctionner l'enseignement, le recrutement des enseignants et la permutation en violation de l'interdiction de tout mouvement du personnel par la secrétaire générale intérimaire à l'EPST. Ils ont aussi fait au ministre quelques suggestions pour la pérennisation de la gratuité de l'enseignement. Il s'agit entre autres de diligenter une mission de contre-vérification dans les provinces à problème et non visitées par les missionnaires, construire et réhabiliter des écoles, mettre en place une commission ad hoc en vue d'examiner cas par cas la situation des provinces concernées, organiser une paie de proximité pour éviter le déplacement des enseignants vers les banques qui perturbent le calendrier scolaire.
Madame Cécile Chiombo, est-ce que vous êtes là?
Je suis là, monsieur le journaliste.
Voilà, je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat des enseignants du Congo, SIECO, en sigle. Dans ces rapports, on avance beaucoup de chiffres. 42 établissements scolaires fictifs, 879 établissements scolaires non viables, 4473 établissements qui fonctionnent avec des faux arrêtés, 2483 agents fictifs et 2483 agents sans acte régulier de recrutement. D'abord, qu'est-ce que vous entendez par établissement scolaire fictif, vous qui évoluez dans ces secteurs? Est-ce que ce sont des écoles qui sont répertoriées sur les listes officielles mais qui n'existent pas physiquement ou elles existent physiquement mais elles ne sont pas reconnues officiellement?
Non, non, les écoles fictives, ce sont les écoles qui n'existent pas. Ce sont les écoles trouvées sur les listings de paye ou dans les fichiers paye des salaires des enseignants, mais qui n'existent pas, qui ont été désactivées et qui peuvent être aussi désactivées s'il y en a encore. Les écoles avec faux arrêtés, ce sont les écoles qui y ont pris des arrêtés d'autres écoles, même numéro d'identification CECOP, et vous allez trouver la vraie école ici à Kinshasa et l'école avec faux arrêtés peut-être dans les Maniema ou dans les Kassai. Ce sont ces écoles-là qu'on appelle écoles avec faux arrêtés. Et il y a des écoles ou des agents recrutés sans acte de recrutement, mais qui se retrouvent être dans les fichiers paye du CECOP où les enseignants sont payés. Et aussi, quand on parle des écoles qui sont non viables, ce sont des écoles qui ont des arrêtés, mais qui n'ont pas d'élèves. Qui n'ont pas d'élèves, où on peut trouver 15 élèves, 17 élèves, ce sont des écoles où encore on trouve dans des parcelles de personnes, et lorsque vous posez la question, on vous dit non, non, Tofut et Lakawa. Ce sont des écoles comme ça, qui prennent l'argent de l'État, cependant cet argent doit servir au paiement des salaires des enseignants. Il y a plusieurs choses, quand on parle des enseignants fictifs, ce sont des enseignants qui n'existent pas. Dans les fichiers, on a trouvé même des décédés. On a trouvé des enfants qui sont recrutés. Vous trouvez un enfant né en 1997, mais dont le numéro matricule a été attribué et depuis 1932, depuis 1965, ainsi de suite. Ce sont ces agents-là qu'on appelle agents fictifs et qui ne doivent plus continuer à demeurer dans les fichiers paye. Mais nous avons dit, on ne peut pas commencer à élaguer les gens collectivement, mais on doit traiter les cas au cas par cas.
Voilà.
Pour dire, s'il y a quelqu'un qui pense qu'il est réellement enseignant, et c'est vraiment une école qui existe, mais à qui on a attribué un faux arrêté, on va étudier les cas, et au cas échéant, on va voir comment trouver solution à tous ces problèmes.
Madame Cécile Kiyombo, sur 57 174 établissements scolaires qui ont été visités par les enquêteurs, 42 écoles sont jugées comme étant fictives, mais les chiffres semblent minimes hein, comparativement à ce qui est constaté sur le terrain. Hein. Depuis plusieurs années, les
oui,
ONG essaient de dénoncer la création désordonnée des écoles sur toute l'étendue de la RDC.
Vous avez suivi que
voilà.
Le ministre lui-même a dit qu'il y a eu des zones assez difficiles. Nous prenons Beni, Bounia, Epunia, Djougou. Et ce sont des zones assez difficiles, même dans les Kassai. Il y a même des écoles qui se trouvent être dans d'autres pays, au Rwanda, en Angola. Ces écoles-là n'ont pas été visitées. Et même sur place ici à Kinshasa, il y a des écoles qui posent problème. Et alors, il y a un autre contrôle en perspective qui va chercher à mettre en nid tout ce qui n'a pas été déniché.
Mais ici, on parle du chiffre 57 174 établissements qui ont été visités. Et sur ces chiffres-là, on a identifié seulement 42 écoles fictives. Et ça semble ne pas refléter les évidences sur le terrain, madame. Est-ce que vous partagez ces points de vue?
Nous avons eu à douter, mais néanmoins, nous attendons. Il y a une commission qui a été mise en place pour discuter de tout ça, et lorsque le rapport va être déposé, nous allons voir ce qui va être fait, puisque vous savez, le contrôle qui vient comme ça, puisque nous avons exigé, il y a beaucoup de choses qui peuvent être cachées. Mais nous disons qu'une commission est mise en place pour chercher à trouver une solution pour ceux qui sont en ordre, et aussi mettre en place un autre contrôle pour aller maintenant fouiner et trouver ce qui reste encore caché.
Voilà, il y a aussi ces écoles non viables. Hein. On parle de 879 établissements scolaires non viables sur les 57 174 visités. S'ils font s'en tenir à l'explication que vous venez de donner tantôt, 879 sur 57 174 paraît, n'est-ce pas, minime, hein, quand des notoriétés publiques, il est connu que la majorité des écoles dans ces pays sont dans un état de délabrement avancé, n'ont pas d'adresse physique. Alors, sur les 57 174, on identifie seulement 879. Vous ne pensez pas que là aussi, c'est également minime?
Non, non. C'est pas minime. Vous savez, si...
Madame, essayez de bouger un peu.
C'est d'écoles. Mais lorsque nous parlons d'écoles non viables, ces écoles non viables, ce sont des écoles qui n'ont pas d'élèves. On peut ne pas les trouver aussi. On peut ne pas les trouver. Ça peut être une école reconnue officiellement, qui a un arrêté officiellement établi, mais on trouve que dans cette école, il n'y a pas assez d'élèves, il n'y a pas assez de locaux, et ainsi de suite, il n'y a pas où accueillir les enfants. Ce sont ces écoles-là appelées écoles non viables. C'est pour dire qu'il n'y a pas assez d'enfants. Surtout, on parle d'enfants, on peut trouver les enseignants, on peut trouver des locaux, on peut trouver que l'arrêté a été officiellement déposé au propriétaire, mais il n'y a pas de viabilité, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas d'enfants, et la cour même où les enfants doivent jouer n'existe pas. Et ce sont ces écoles-là, on peut ou ne pas les avoir, mais la préoccupation est que s'il y a ces écoles-là, il faut récupérer l'argent.
Il y a cet auditeur qui nous appelle, qui nous écrit hein, depuis les Olomami. Il s'appelle Charles Poudika. Il dit que deviennent les 4473 établissements fonctionnant avec des faux arrêtés et les 2483 agents sans acte régulier de recrutement dès lors qu'on reconnaît qu'ils sont opérationnels. Que deviennent-ils, vous, en tant que syndicaliste?
Qu'ils soient opérationnels ou pas, sur le plan de la loi, tu peux être opérationnel, mais tu prends l'argent de l'État sans que l'acte qui crée cette école n'ait pas été un vrai acte. En ce moment-là, vous pouvez être poursuivi et celui qui a créé l'école, et celui qui a donné les faux actes, et celui qui touche l'argent de l'État chaque mois, tous sont condamnables et ils peuvent aller en prison.
Merci, Madame Cécile Tshiombo. On vous garde encore dans cette émission. Monsieur Serge Bondé dit, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Voilà,
je vous suis religieusement.
Ok, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'ONG, Association des Jeunes pour l'Éducation YMAE en sigle. Vous êtes également coordonnateur de la campagne École à Mombongoté. Lorsque vous entendez tous ces chiffres, 42 établissements scolaires fictifs, 879 établissements scolaires non viables, 4473 établissements qui fonctionnent avec des faux arrêtés, 2483 agents fictifs et les mêmes chiffres pour des agents sans acte régulier de recrutement, qu'est-ce que cela vous inspire, monsieur Serge Bondedi?
Je vous dis, au nom de Imaïe, nous sommes stupéfaits. Est scandalé de suivre ces chiffres. Vraiment, nous sommes désolés parce que il y a beaucoup de choses sur lesquelles on s'interroge et qui nous poussent même à demander, à se poser la question sur le bien fondé de la publication de cette cérémonie. Pour la petite histoire, je crois que c'était au mois d'avril, 20 mars avril, à l'époque c'était le ministre Bakonga qui avait annoncé à travers une lettre, il y avait une lettre du secrétaire général Mangobe, l'annonce de la désactivation des écoles fonctionnant avec des faux arrêtés sur recommandation de l'IGF suite à une mission de contrôle qui a été faite. Alors à ce moment-là, nous, comme défenseurs de l'éducation, défenseurs des intérêts de la communauté, nous nous sommes opposés à cette annonce parce que nous avons estimé que la fermeture des écoles fonctionnant avec les faux arrêtés menacerait les droits des enfants qui se trouveraient dans ces écoles et que la question des écoles fonctionnant avec les faux arrêtés est une responsabilité première du gouvernement congolais. Parce que nous sommes dans un pays, dans un système éducatif où les assises de la promotion scolaire ne se tiennent plus, partant de la base jusqu'au sommet. Et le pouvoir politique donne l'impression de ne pas se préoccuper sur cette question, parce que on ne peut pas directement cataloguer une école fonctionnant avec faux arrêtés si au départ l'État n'avait pas pris ses responsabilités. Et deuxièmement, la question des écoles fonctionnant avec faux arrêtés est une question immense avec beaucoup des interrogations sur cet aspect. Parce que nous avons dit à cette époque, je crois, on avait même lancé une campagne pour éclairer la lanterne des communautés, qu'il y a de ces écoles, nous avons vu, à cette époque-là, le ministère avait publié une liste d'environ 1120 écoles qu'il fallait désactiver, mais lorsque le ministre a fait sa cérémonie, nous sommes dans 4000 et quelques, vous voyez, les chiffres ne corroborent pas, et nous avions dit que dans cette liste, je disais, il y avait de ces écoles qui fonctionnent, mais qu'on a catalogué comme étant fonctionnant avec des faux arrêtés, tout simplement parce que il y a eu une mutation au cours des années et l'État ne s'est pas assumé. Vous avez certaines écoles en milieu périphérique ou en zone rurale où l'État s'est totalement désengagé, où l'État est totalement absent. Il y a des initiatives des privés pour venir en aide des enfants en âge de scolarité et que l'État devrait renforcer. Donc, lorsque nous avons suivi cette cérémonie, nous avons appris, nous avons vu, il y a tantôt, on parle de la question des agents fictifs, on parle des écoles fictives, on parle des écoles fonctionnant avec faux arrêtés, on parle des écoles non viables. Donc, c'est une question qui avait suscité beaucoup d'interrogations, ce qui avait amené, en date du 1er avril, le ministre sortant, de mettre en place une commission ad hoc pour examiner au cas par cas sur cette situation, parce que le gouvernement était convaincu, avec tout ce que nous avons fait comme message d'alerte, que l'intérêt de l'enfant était sérieusement menacé. Ça, c'est de un. Et de deux, tous ces enseignants qu'on prétendait désactiver leur compte au niveau du CECOPE devraient se retrouver sans emploi. Donc, par conséquent, les enfants sans enseignants au niveau de ça des classes.
Alors, M. Serge Bonnevie, justement, parce que vous évoquez les conséquences immédiates de la publication, n'est-ce pas, de ces rapports des milliers d'enseignants ou d'agents qui vont basculer dans le chômage, des milliers d'élèves qui seront obligés de rester à la maison et donc de rater l'année scolaire. Et s'il vous était demandé, n'est-ce pas, de prodiguer un conseil au gouvernement, de quelle manière le gouvernement pourrait-il gérer ces dossiers tout en évitant, n'est-ce pas, de préjudicier aussi bien les intérêts des élèves que ceux des enseignants?
En tout cas, en un mot, ce qu'on peut dire au gouvernement, c'est d'être sérieux. C'est d'être sérieux parce que nous avons l'impression de vivre un spectacle où on passe d'épisode en épisode du événementiel. Lorsque ces questions ont suscité un tollé généralisé, je crois que le ministre actuel, Tony Mwaba, lorsqu'il est venu en fonction, en date du 14 juin 2021, il a mis en place une commission nationale et des commissions provinciales chargées d'examiner la situation des écoles à désactiver. Et je vous informe, c'est par arrêté qu'il a mis en place cette commission, arrêté 002/2021, du 14 juin de l'année en cours, et je vous informe que cette commission, dont je suis membre, n'a siégé que trois fois. Et la commission a été butée à un problème. Le chiffre avancé au cours de cette cérémonie, ces chiffres proviennent du rapport des missions effectuées par les enseignants et les agents du CECOPE. Or, en son temps, lorsque le ministre et le leadership sortant avaient mis en place cette mission des terrains constituée uniquement des enseignants et CECOPE, ça avait encore suscité des débats parce que, surtout nous, la société civile, nous avions estimé que ce n'était pas juste. D'abord, le chiffre qui pose aujourd'hui problème provient de l'opération Eurini qui a été effectuée par l'ensemble des acteurs éducatifs, l'ensemble des partenaires éducatifs. Et CECOPE était pointé du doigt parce que lors de l'ORINU, il y avait des agents du CECOPE qui ont reçu des moutons, qui ont reçu des chèvres, qui ont reçu des enveloppes pour mettre dans le fichier des gens qui n'avaient pas droit au chapitre. Alors, demander encore aux mêmes personnes qui étaient pointées du doigt pour aller effectuer une mission de contrôle, ça ne valait pas la peine parce qu'ils étaient jugés par-ci. Et associer uniquement les enseignants et le contexte qui a conduit à la mise en place de cette mission, nous les connaissons. À cette époque, il y avait une guerre entre l'IGF et les responsables du ministère de l'enseignement de l'EPST. Et alors, le contexte, tous les acteurs le savent, ce n'est pas un secret des polichinelles. Il fallait, tant soit peu, réduire l'impact ou les effets des allégations portées à l'époque par l'IGF. Donc, au cours déjà de première réunion de la commission que le ministre est actuel a mis en place matériellement, nous avons fustigé ces rapports. Si vous lisez même, je mets quiconque a décidé d'exploiter les rapports ramenés des provinces par les syndicalistes, mais si vous dépiécez ces rapports, il n'y a pas de la quintessence. Et il y a même des accusations selon lesquelles il y avait certains contrôleurs qui, au lieu d'aller dans les écoles, s'étaient limités dans des bureaux du Sécopé, et là, ils ont tout confectionné. Ce sont des rapports vides. Si vous détaillez, vous dépiécez rapport par rapport, vous allez retrouver qu'il y a un problème d'uniformité et de conformité par rapport aux orientations qui ont été faites. Alors si, au stade actuel, le gouvernement s'effondre sur des rapports qui sont jugés non efficaces, non réels, non rationnels, vraiment, nous sommes stupéfaits et nous disons, en tout cas, le gouvernement où le ministère est en train d'exceller dans des spectacles sans les éléments de quintessence substantielle.
Merci.
Donc, la démarche qu'il faut faire, puisque vous m'avez demandé les conseils,
oui.
Il faut que cette commission que le ministre a mis en place fonctionne. Mais avant tout, au préalable, le mal aujourd'hui qui roge le ministère de l'EPST, nous devrions revenir sur la plénière nationale de l'ONU. Parce que c'est le mauvais aboutissement de l'ONU qui est à la base de ces catastrophes qui fait couler encre et salive aujourd'hui. C'est le mauvais aboutissement de l'ONU qui a envoyé, peut-être à tort ou à raison, on ne sait pas, l'avenir nous en dira plus, certains au cadre du ministère à Makala. Il faut revenir sur la plénière de l'ONU pour que chaque représentant, chaque superviseur qui était sur terrain, y compris la personne qui vous parle, nous puissions dire ce qui a été effectivement ce travail au niveau du terrain. Et le travail de suite sera compilé et ce que les enseignants ont fait, les syndicalistes et le Sécopé doit être mis de côté.
Merci.
Il faut une autre mission. Et au-delà de ça, mettre à contribution un travail sérieux qui est fait avec des partenaires internationaux sur la géolocalisation.
Merci,
ce sont des données scientifiques qui prouvent si une école existe ou pas, si un enseignant existe ou pas.
Merci, M. Serge Bondedi. Nous vous gardons encore dans cette émission. M. Isidore Kwanja Ngembo, vous êtes analyste des politiques publiques spécialisé en management des organisations publiques, gestion axée sur les résultats et réformes des administrations publiques. Comment vous réagissez face aux chiffres contenus dans ces rapports de la Commission qui a été mis en place par le ministère de l'EPST?
Oui, quand j'ai lu ces rapports, j'étais très content et j'ai même tweeté pour féliciter le ministre de l'EPST. Pour moi, je ne suis pas surpris parce que c'est une question que j'ai eu à soulever chaque fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer les autorités publiques sur la question de la réforme de l'administration publique. J'ai toujours évoqué cette question de la maîtrise du fichier de paye des agents publics. Aujourd'hui, comme vous le savez, dans la fonction publique, l'éducation, la santé, l'armée et la police, c'est là où on trouve le plus grand nombre de fonctionnaires et agents publics de l'État. Mais dans ce domaine-là, on n'a pas de chiffres exacts, aussi bien dans le secteur de l'éducation, au secteur de la santé, dans l'armée et la police, on n'a pas de chiffres exacts. Et lorsqu'on n'a pas de chiffres exacts, on ne peut pas maîtriser la masse salariale. Et donc ça ne m'a pas étonné. Mais ce que j'ai trouvé dans ces rapports, c'est qu'au moins on a mis le doigt dans la plaie. Et ça, j'ai apprécié d'abord le ministre de la fonction publique qui avait évoqué dernièrement qu'il y avait 20 millions de dollars qui disparaissaient comme ça. Et puis aujourd'hui, le ministre de l'EPST vient avec des chiffres, des écoles fictives, des agents fictifs. Mais je pense que ce travail-là doit continuer. Ça, ce n'est qu'une goutte d'eau, mais on devrait faire le recensement de l'ensemble de la fonction publique. Je vois par là Donc, tout ce qui touche à l'armée, à la police, à la fonction publique, donc tout ça, ce sont les agents publics de l'État. Et l'État a la responsabilité de connaître exactement quels sont ces agents pour pouvoir, notamment, les payer normalement et améliorer leurs conditions de vie.
Et donc, Kwanja, avec tout ce qui s'est dit depuis toujours dans le secteur de l'enseignement dans ces pays, lorsque vous voyez les chiffres contenus, n'est-ce pas, dans ces rapports de cette commission qui a été mise en place par le ministère de l'EPST, vous pensez que ces données reflètent la réalité? Est-ce que il ne peut y avoir que 42 établissements scolaires fictifs dans ces pays? Et puis, avec les désordres que l'on a connus dans ces, dans les recrutements du personnel, on identifie seulement 2483 agents fictifs. Et les écoles, 879 établissements scolaires non viables. Et s'il faut diviser 879 écoles non viables par 26 provinces, on aura environ 30 écoles non viables par province. Est-ce que ces données sont conformes à la réalité, M. Isidore Kwanja?
Les données, qu'elles soient conformes ou non conformes à la réalité, mais c'est quand même un premier pas qui a été franchi. Maintenant, il faut aller davantage, creuser davantage, faire des inspections dans toutes ces écoles pour identifier encore d'autres écoles. Moi, je trouve que c'est un pas dans la bonne direction. C'est vrai qu'on ne sait pas exactement, on ne peut pas imaginer que c'est juste 42 écoles fictives qui existent dans toute la République démocratique du Congo. Mais c'est dans la bonne direction. Maintenant, tout ce que nous pouvons demander au ministère de l'EPST, c'est d'approfondir ce travail, d'investiguer davantage pour dépister tous les fonctionnaires fictifs, pour dépister des écoles fictives et pour et aussi doter ces écoles qui sont conventionnelles, qui sont reconnues, leur donner des moyens pour que nos enfants puissent étudier dans des conditions normales.
Monsieur Isidore Kwanja, vous avez suivi Serge Bondedi qui, en parlant des chiffres, il a estimé que ces chiffres n'étaient pas fiables. Et on sait que c'est des chiffres, des données qui ont été apportées par une commission qui a été mise en place par le ministère de l'EPST. Et vous ne pensez pas que pour rendre fiables ces conclusions, qu'il faille envisager de diligenter, n'est-ce pas, une mission de contre-vérification dans ces différentes provinces, une mission à laquelle on associerait, n'est-ce pas, les coordonnateurs des écoles conventionnées catholiques, protestantes, kimbangustes, musulmanes et salitistes, par exemple, et qui gèrent la plupart de ces écoles?
C'est une bonne initiative. Moi, je trouve pas qu'il y a un problème là-dessus, d'autant plus que toutes ces écoles, que ce soit les écoles conventionnées catholiques, protestantes ou kimbanguistes, ils sont payés par l'État et donc l'État a le pouvoir de jeter un coup d'œil dans tout ce qui se passe dans ces écoles-là. S'il faudrait mettre une grande commission pour enquêter auprès de ces confessions, je pense que c'est un travail que le gouvernement devrait faire, d'autant plus que c'est le gouvernement qui paye tous ces agents et ce sont des agents publics de l'État.
Merci. Merci, Madame Cécile Tshiombo. Nous allons prendre, n'est-ce pas, les réactions des auditeurs qui sont en train d'appeler pour donner leur point de vue. Vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Lubumbashi dans les Haut-Katanga.
Patrick Tazadi, depuis la ville de Lubumbashi dans les Haut-Katanga, je continue à encourager et saluer le travail qu'abat l'IGF sous la houlette de monsieur l'inspecteur chef de service. Ceci, c'est-à-dire les écoles fictives, les agents fictifs, les écoles fonctionnant avec des faux arrêtés, des établissements scolaires non viables, c'est la conséquence de ce qui a été fait en amont, c'est-à-dire la décision du chef de l'État portant gratuité de l'enseignement de base, une décision que j'ai jugée précoce et prise à la va-vite. Voilà qui a poussé certains juceurs au pouvoir d'affilier leurs écoles privées, de gonfler les effectifs des enseignants, et j'en passe le pire. Ceci aurait dû être évité si les études préalables avaient été faites, notamment le recensement de toutes les écoles publiques et conventionnées, le recensement de tous les enseignants des écoles publiques et conventionnées, et ainsi fait, la gratuité aurait connu un franc succès. Toutefois, je reste optimiste quant à l'aboutissement de tous ces dossiers au niveau de la justice, avec condamnation des auteurs impliqués et l'amélioration des conditions de vie des enseignants, ainsi que la modernisation des infrastructures scolaires.
Madame Cécile Kiyombo.
Oui, je dis merci à notre intervenant. Je me dis que toute révolution a des conséquences, comme elle peut avoir aussi des conséquences positives. Il était impérié que la gratuité arrive à n'importe quel moment, puisque c'est une loi. La loi, quand elle est respectée, et c'est tout le monde qui peut en réjouir. Mais nous avons assisté au mépris de la loi, et personne ne pouvait respecter la loi dans notre pays. Et nous, les enseignants, nous en avons souffert. Tout simplement parce que depuis la conférence nationale souveraine, nous étions jetés entre les mains des parents qui pouvaient nous payer tel qu'ils veulent et que les résultats des élèves pouvaient être ordonnés par les chefs d'établissement ou encore par la hiérarchie de l'EPST pour dire que tel enfant paye convenablement et l'autre ne paye pas. Vous pouvez trouver que l'enfant qui paye 1 000 $, 500 $ pouvait passer des classes et celui qui étudiait normalement qui pouvait être délibéré avec 49%. Aucun parent n'acceptait que son enfant reprenne tout simplement puisque l'année scolaire prochaine, il était obligé d'aller payer encore d'autres frais. Mais néanmoins, nous avions aussi trouvé à côté de la gratuité qu'il y a des effets induits. Et par rapport aux effets induits, nous avons déposé des notes techniques, des cahiers de charges auprès de la hiérarchie, des décideurs, pour que l'on puisse voir, revoir les conditions dans lesquelles les enseignants travaillent et les élèves étudient l'environnement de l'école. Aujourd'hui, il y a la plus grande spoliation. Et surtout, dans quelles écoles? Dans les écoles conventionnées. Et les écoles conventionnées sont des écoles publiques. Toutes les écoles gérées par les églises sont des écoles publiques. Ce n'est pas puisqu'ils sont gérés par les églises, ils deviennent autre chose que les écoles appelées officielles. Toutes sont des écoles publiques. Mais néanmoins, à côté, il y a les effets induits. Il y a pléthore dans des salles de classe, il y a des écoles à construire et des infrastructures à revoir, ainsi de suite. Mais néanmoins, nous disons, tel que l'expert l'a dit, c'est un débit. Merci. Le débit a toujours été difficile. Nous avons dit qu'il faut qu'il y ait un contre-vérification pour savoir si réellement les chiffres qui nous sont amenés sont des vrais chiffres.
Merci madame. Monsieur Serge Bondedi, vous allez aussi réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Goma, au Nord Kivu.
Je suis Moïse Angui depuis Goma, au Nord Kivu. Les rapports, j'ai tout simplement confirmé les dénonciations des professionnels de la CRE via leur syndicat portant sur le détournement de leur salaire. Ce genre de comportement impacte et explique la détérioration de la qualité de l'enseignement national aujourd'hui. Je pense, à mon avis, qu'il faut renforcer la rigueur et le contrôle dans ce secteur. À notre justice également de se réveiller et de faire son travail comme il le faut.
Et, Monsieur Serge Bondedi, mais est-ce que vous avez compris l'idée exprimée par cet auditeur?
Oui, ça va, mais il faut, en tout cas, comme ONG qui fonctionne dans le secteur de l'éducation, souvent c'est aussi à tort ou à défaut qu'on impute toujours les appréhensions de fraude à l'égard des uns ou comme des autres. Très souvent, on oublie aussi les faiblesses de l'État congolais pour imputer seulement aux autres les allégations de fraude. La gratuité, je crois que Maman Cécile a parlé des effets induits. Nous étions à la table ronde sur la gratuité et parmi les recommandations de la table ronde, on a demandé aux écoles d'ouvrir suffisamment de salles pour permettre aux enfants qui étaient en dehors du circuit scolaire de réintégrer le circuit scolaire. Et cela appelait au recrutement de nouveaux enseignants. Parce que si on n'avait pas recommandé de cette manière, la gratuité n'aurait pas tout son sens. C'est un aspect technique. Et c'est cette recommandation qui a provoqué certaines personnes mal intentionnées on avait profité. C'est ça qui avait provoqué un afflux d'élèves avec des recrutements massifs des enseignants. L'espère, le co-débatteur a parlé du recensement. Il y a eu recensement dans ces pays des enseignants au mois de février, au mois de février de l'année passée, le 4 février, puis il y a eu l'opération rapide d'identification de tous les enseignants dans ces pays. Et le problème qu'il y a eu, comme je disais tantôt, c'est l'atterrissage de ces recensements qui aujourd'hui est à la base de tous ces problèmes. Aujourd'hui, on peut estimer, comme l'auditeur a dit, la gratuité et la qualité posent problème, effectivement, parce que parmi les essais induits, nous avons réalisé une enquête là-dessus, où nous avons recensé 14 essais induits par la gratuité. Vous avez des cas de promiscuité et tant d'autres. Il faut que l'État continue à fonctionner pour contenir tous ces effets induits. Mais si, au départ, on a des préjugés sur le comportement des uns et des autres, on va s'aventurer à trouver de meilleures solutions.
Mais ce serait, je m'aurais dit, et s'il faut commencer à parler des solutions, et à votre avis, que faut-il faire pour assainir efficacement le secteur de l'éducation dans ces pays, en RDC?
On ne va pas inventer la roue, la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation a tracé, a balisé le chemin. Il faut que ceux qui viennent pour gérer le secteur éducatif se marient avec cette stratégie et s'entourent de personnes expérimentées, des gens qui ont la topographie des différents acteurs, les gens qui ont la mémoire institutionnelle, au lieu d'avoir, de s'entourer des personnes qui, malheureusement, ne maîtrisent pas suffisamment les enjeux. Et nous sommes dans une sorte de cercle vicieux. La stratégie sectorielle prévoit les grandes lignes de la gouvernance. Puisque aujourd'hui, la gratuité qui est appliquée, elle n'est pas nouvelle, bien qu'elle ait été généralisée grâce aux efforts du chef de l'État actuel. Il y a des gens qui ont travaillé sur ça. Il y a des gens, souvent les gens à défaut parlent de qu'elle n'a pas été planifiée. C'est ce qui est faux. Le problème maintenant, c'est la gestion de cette politique. Dans cette émission, vous voyez que c'est la cérémonie qui a eu lieu. On parle des écoles fictives, on parle des agents fictifs, des écoles fictives, allez-je dire, des écoles fonctionnant avec faut arrêter, des écoles non viables. Or, la question de la viabilité n'est pas, je crois, je l'ai dit au cours d'une réunion de la commission sur les écoles à désactiver, c'est une matière vaste. Okay. Une école peut fonctionner avec vrai arrêté, mais qui n'est pas viable.
Voilà.
Parce que la question de la viabilité, elle est extrêmement vaste.
D'où la nécessité de cette contre-vérification.
Oui, oui, on sent du méli-mélo. Donc, on doit revenir sur le résultat de l'ORINI et cela. Après l'ORINI, la table ronde avait dicté la rationalisation.
Merci.
C'est-à-dire que après ces recensements, il faut rationaliser, il faut lier les données rapportées par ces recensements, il faut les confronter aux réalités, et après cette rationalisation, les choses allaient se faire
Merci, M. Serge Bondedi. M. Isidore Kwanja, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Kananga au Kasaï Central.
Mesdames, moi, je vous appelle depuis la ville de Kananga, dans la province du Kasaï Central. En tant qu'enseignant, moi, je propose ce qui suit pour l'assainissement du secteur éducatif congolais. Premièrement, il faut mettre en place une autre commission qui va descendre dans les différentes provinces qui ne sont pas encore contrôlées jusque-là. Deuxièmement, il faut faire respecter les textes légaux en matière de recrutement des professionnels de la CRI. Troisièmement, il faut procéder au remplacement des chefs d'antenne de FECOP à travers le pays Taxe et Santé qui favorise cette mafia. Enfin, permettez aussi les directeurs provinciaux, les provinces et autres. Et là, je veux juste vous dire qu'on doit tout faire pour déférer devant la justice tout celui qui est impliqué une des mêmes lignes de près. Parce que comme le montre ce rapport, les cas d'effectifs dans les secteurs constituent un manque à gagner dans les trésors publics au détriment même de vrais enseignants qui travaillent et qui continuent à courir dans la misère.
Isidore Kwanja, comment vous réagissez aux propositions faites par cet auditeur qui vient nous appeler de Kananga?
Oui, je partage entièrement ces propositions. Je trouve qu'il est important de saluer cette commission qui a fait un travail, certes pas complet, mais que c'est un bon débit, que on devrait, donc le ministère de l'Éducation devrait approfondir ce travail et puis éventuellement étendre cette mission à toutes les écoles de confession religieuses, catholiques, protestantes, kimbanguistes et autres musulmanes. Et comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Même si on a confiance aux confessions religieuses, on leur a confié la responsabilité de ces écoles. Ces enseignants sont des fonctionnaires de l'État, ce sont les agents publics de l'État, donc l'État a la responsabilité d'approfondir, de faire un travail de titan, d'aller dans toutes ces écoles, d'identifier les vraies écoles qui fonctionnent normalement. Parce que, vous le savez tous, que l'éducation est un droit fondamental.
Isidore Kouandjia, ça sera aussi votre conclusion. Hein. Qu'est-ce que vous proposerez pour qu'on arrive, n'est-ce pas, à assainir efficacement le secteur de l'éducation en RDC? Vous avez commencé par proposer un recensement holistique, un recensement global de l'ensemble de la fonction publique.
Oui, le recensement, moi je dirais que ça devrait être une activité quotidienne, donc disons semestrielle, qui devrait se faire régulièrement, mais en plus de ça, améliorer les conditions des enseignants. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on semble minimiser, parce que si on veut avoir des enfants bien formés, il faudrait que les enseignants aient tous les moyens nécessaires, notamment réinstaurer le système de librairies scolaires qui manque, des élèves qui étudient sans un livre. Ça, c'est aussi quelque chose que le gouvernement devrait faire. Donc, moi, je pense que le recensement va permettre d'identifier les vrais enseignants, les vrais fonctionnaires de l'État, mais aussi l'État doit aussi aller regarder, même dans toutes ces autres écoles fictives dont on dit qu'elles sont fictives, voir dans quelle mesure, parce que les enfants qui vont s'inscrire là-bas, ils ne savent pas que ce sont les écoles fictives.
Merci, M. Isidore Kouandjia. Madame Cécile Tshiombo, votre conclusion.
Moi, je pense que nous disons c'est un débit. Puisque c'est un débit, nous devons continuer avec le contrôle. Et je propose la mise en place d'une commission permanente qui doit à tout moment surveiller et contrôler les écoles. Lorsqu'on parle établissement, on parle établissement scolaire. Et lorsqu'on dit qu'il y a eu contrôle des enseignants et des écoles, les enseignants, ils n'ont pas été contrôlés. C'est là où il y a un problème. On a contrôlé les agents de bureau et les bureaux gestionnaires qu'on a eu à recruter et au même moment été payés en désordre. Voilà pourquoi nous disons il faut qu'il y ait un autre contrôle.
Merci.
Pour que nous puissions savoir et avoir la vraie cartographie des écoles.
Merci.
Nous disons qu'il y a des types d'enseignants, enseignants assis et enseignants debout, ce sont les agents qu'on retrouve dans une école et non dans un bureau gestionnaire.
Merci Madame Cécile Tshiombo. Monsieur Serge Bondedi, votre mot de la fin.
Oui, nous invitons donc le ministère à beaucoup plus de rationalité dans ce qu'il entreprend. Ça va de l'intérêt de l'enfant. Le chiffre, nous avons suivi la cérémonie, les chiffres avancés, en tout cas, sont de loin, reflètent de très loin la réalité. Et ces chiffres proviennent d'une commission qui a été, d'une mission de contrôle qui a été qui était pointé du doigt parce que sa composition faisait défaut et le parti prenante était jugé parti. Donc nous pensons qu'il va de l'intérêt à notre système éducatif de revenir sur l'aboutissement de l'ORENU, de passer par la rationalisation des écoles et bureaux gestionnaires, à mettre en contribution les rapports annuels de l'inspection de l'enseignement, le rapport de CERNI, le rapport de tous les services techniques.
Merci.
Pour nous permettre de confronter le vrai chiffre.
Merci, merci à vous Madame Cécile Tshiombo, à Monsieur Serge Bondedi et Monsieur Isidore Kouandjia Ngembo d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à Jean-Claude Nsiala qui était à la technique et à Kelly Nkoute et Donama Dimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe. À la présentation Guy Maté, merci et bonne suite des programmes sur Radio Capi.